Les cours du Collège de France, Louis Fensterbank, chaire Activation en chimie moléculaire.
Bonjour à toutes et à tous, en ce beau jour de printemps ensoleillé. Vous avez d'autant plus de mérite à venir voir des nitrènes, même si on va essayer de les faire briller. Je dis bien « on » parce qu'on va être trois aujourd'hui. C'est le quatrième cours de cette série consacrée aux intermédiaires réactionnels et espèces réactives. Et donc, je suis désolé, Philippe, t'as perdu ton nom. Mais c'est Docteur Philippe, excusez-moi. Ce n'est pas un poisson d'avril, c'était la semaine dernière. Voilà, donc je vais vous parler de nitrène. Et donc, Philippe de Aubanc, que je connais par ailleurs très bien, vous parlera de nitrène rhodium et de leur amination sélective de carbone sp3 H-bond. Et Guillaume Presta vous parlera du fer et de l'hydroxylamine. Et donc, long lasting pair for reactions. Et là aussi, il manque quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Bon. On va inverser l'ordre d'ailleurs. Ça sera Guillaume qui va passer en premier et Philippe en second. Bon, j'espère que mes slides suivantes vont survivre un petit peu mieux. Alors, oui, juste pour revenir sur l'enchaînement de ces cours, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi avoir commencé par les carbocations, puis ensuite les carbanions, puis ensuite les carbènes, et aujourd'hui les nitrènes. Et en fait, si vous regardez cet abstract d'un SIS meeting récent, 2026, dont les chairs étaient Véronique Michelet, professeur Samantha et Tania Gulder, donc c'est un symposium virtuel. En fait, ils avaient exactement le même découpage, donc reactive intermediates, carbocations, carbanions, radicals, carbenes, nitrines, and organic species. Donc vous voyez, c'est une espèce de, malgré tout, d'enchaînement assez logique. Et les deux, carbène et nitrène, on peut assez bien comprendre pourquoi on va les traiter de façon proche, vu leur un grand nombre de similitudes. Voilà, enfin, c'était juste une petite parenthèse. Et tout ça pour dire aussi que cette idée de classer, finalement, de faire un peu une spéciation des espèces en chimie organique reste non seulement d'actualité, mais aussi un certain sens si on veut découvrir des nouvelles réactions et aussi mieux comprendre les mécanismes. Et puis surtout aussi vraiment proposer des chemins réactionnels totalement inédits en profitant des avancées technologiques dans un certain nombre de domaines. Alors, les carbènes, j'aime bien l'histoire de la chimie, je vais peut-être me spécialiser un jour dans ce domaine, c'est un petit peu plus compliqué peut-être de trouver l'histoire de la chimie des nitrènes, et pour cela, il y avait une bonne revue par Philippe Dauban, et également d'autres, mais bon, visiblement, un des premiers papiers, dont voici l'extrait, et par Timan, et qui s'intéresse alors, à ce réarrangement de Lawson, hein, il le cite, vous voyez, et où globalement c'est le Lawson arrangement tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est cette réaction où on va faire ce tosylate ici qui va se réarranger en isocyanate en présence d'une base. Et lui, ce qu'il remarque, c'est que s'il prend cette hydroxylamine amide et qu'il le distille à sec, donc il y a des conditions évidemment à ne pas faire, il va en fait obtenir du CO2 et de l'aniline, donc autrement dit tout suggère qu'il est passé par cet intermédiaire isocyanate qui ensuite réagit avec l'eau et donne l'acide carbonique, le CO2 et également l'aniline. Et il écrit bien a priori le nitrène qui subit le réarrangement. Voilà, donc ça a été... alors le terme nitrène par ailleurs est venu très très tard dans la littérature parce qu'ils se sont appelés soit des azènes, soit des azylènes, soit des imine radicals, soit des azacarbènes, pourquoi pas après tout, soit des imido-intermédiaires ou des imidogènes. Imidogène est un terme qu'on retrouve assez souvent dans la littérature. Et donc ça c'est, vous voyez, c'est une discussion de 1964, donc ça a mis du temps avant de vraiment donner un nom à ces espèces. Un point qui est assez intéressant, c'est l'année 1951 où Smith va découvrir que les aryls nitrènes, en fait, peuvent être formés à partir des azotures aryliques correspondants, soit en chauffant, soit par photochimie. Et donc, on peut faire des hétérocycles de cette façon, puisqu'on fait ce nitrène très, très réactif qui va faire, par exemple, une insertion CH. Donc, globalement, ça, c'était une date importante. Ça a été suivi par un certain nombre d'auteurs, dont un Breslau, qui n'est pas le Breslau dont on a déjà parlé, mais qui est un autre Breslau. Voilà, donc ça c'est pour l'histoire. Donc après, si on parle de structure elle-même, en fait, Vous avez cet azote ici monovalent à 6 électrons, donc qui va avoir à gérer ces deux doublés. Et là, pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez avoir un système open shell, donc triplé, et vous allez avoir un doublé, on va dire, non liant, et deux électrons ici qui vont être chacun dans une orbitale P, et avec des spins parallèles. Ou vous avez le système closed shell, qui va correspondre donc, à un état singulé de votre nitrène. Et dans ce cas-là, en fait, évidemment, tous les électrons sont avec des spins en antiphase. Donc, ce qui est important aussi, c'est que dans certains cas, sont mentionnés aussi l'open shell, l'état singulé, qui peut être soit modélisé, soit a priori déterminé, et qui va correspondre en fait à un état excité de celui-ci, puisqu'on va dans ce cas-là peupler une des orbitales P, mais avec les spins du coup en opposition. Donc les nitrènes, par certains côtés, donc évidemment ont beaucoup de similitudes avec, comme j'ai dit, avec les carbènes, et ils vont faire assez facilement des insertions dans les liaisons CH, voire XH. Ils vont pouvoir faire des additions sur les doubles liaisons, on va le voir abondamment, et puis on les voit aussi au travers un certain nombre de réarrangements. Par exemple, on va voir que le rangement de Wolf des carbènes ressemble beaucoup à celui de Curtius pour les nitrènes, hein, ou inversement d'ailleurs. Et d'une façon générale, ça va être des intermédiaires très électrophiliques, beaucoup moins stables que les carbènes, même si on peut voir, je vais vous montrer quelques exemples, ils ont pu être isolés, et ils ont une réactivité souvent quand même spécifique. Alors, j'ai essayé de trouver une belle citation décrivant les nitrènes un peu de façon limite poétique. Et alors, si on met ça sur l'IA, effectivement, on trouve des superbes citations. Et puis après, on demande la source. Et là, et là ça devient compliqué parce qu'on ne les trouve jamais. Alors, a priori, donc celle-là est sortie du livre Nitrène, qui est un livre qui existe parce que l'IA est débordante d'imagination pour vous trouver des fausses références. Et puis après, donc même si on poussait un peu plus loin, on lui dit « mais t'es sûr que c'est dans cet article ?» Il dit « oh non, excuse-moi, effectivement. » Bon, bref, donc ce que cette citation dit, c'est que ce sont des « chemical chameleons » comme les carbènes, et donc leur comportement va être dicté par l'état électronique dans lequel ils sont générés, donc évidemment singulé ou triplé, va fortement dicter leur réactivité, ce qu'on peut comprendre, puisque tout de suite, si on est dans l'état triplé, on peut avoir une réactivité diradicalaire assez facile. Voilà, donc on revient à du basique, mais toujours bon à revoir, parce que finalement, c'est des réactions qui ont beaucoup d'utilité. Donc c'est pris du bouquin de Clyden, Greaves, Warren et Waters. Donc, un bouquin bien pour un niveau master. Et vous devez vous souvenir de ce réarrangement de Wolf où quand on a une diazocétone, on va pouvoir va subir ce réarrangement qui va donner le cétène et puis qui ensuite peut, qui est très électrophile et donc qui va subir l'addition nucléophile de l'eau pour vous donner cet acide carboxylique. Et ça, donc, c'est utilisé notamment dans l'homologation de Arnstadt, qui est quand même finalement une très belle réaction, puisqu'on va pouvoir partir d'un acide carboxylique et obtenir l'acide carboxylique homologue, juste sur lequel on a rajouté un CH2. Donc, principe de ça, on utilise le diazométhane, ce qui n'est pas forcément le réactif le plus facile à manipuler. Il peut y avoir des alternatives. On forme cette diazocétone, on chauffe, et donc c'est le même mécanisme qu'ici. Donc, cette migration du groupement R sur le carbène avide d'électrons, et donc on obtient ce dérivé. Et bien en fait, il y a aussi un rangement de Curtius qui ressemble fortement à celui-là. Dans ce cas-là, on va partir de cette cétoazide dont on peut écrire cette structure limite, et qui lui aussi va pouvoir avoir le même type de réarrangement. Si on forme le nitrène, migration du groupement R, et dans ce cas-là, on forme un isocyanate, lui aussi très électrophile, et qui va pouvoir donner, si l'eau est, on est hydrolysé avec de l'eau, on va pouvoir obtenir cet acide carbamique, et puis donc autrement dit l'amine. Donc c'est une bonne façon de dégrader un amide en amine, où on peut faire en fait un carbamate, si on a un alcool maintenant ici. Voilà, donc là aussi deux réactions, trois réactions très utilisées, toujours, et c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Donc maintenant, la question qui se pose, c'est quand on a ces intermédiaires réactionnés, il y a toujours eu ce questionnement, est-ce que je peux avoir un nitrène au fond d'un ballon et le montrer? Et la liste ici n'est pas exhaustive. Effectivement, ça a été réalisé. Il y a un certain nombre d'exemples qui restent quand même limités. Parmi les plus marquants, il n'est pas surprenant de trouver une contribution du labo de Guy Bertrand. Hein. Il parlait pas mal au dernier cours, beaucoup travaillé sur les carbènes, mais aussi lui finalement sur les nitrènes. Et il va utiliser un petit peu la même stratégie, c'est-à-dire de stabiliser un nitrène par un phosphore ici, donc pour donner un phosphinonitrène. Si vous vous souvenez, son carbène, un de ses premiers carbènes publiés, avait aussi cette stabilisation par le don d'un doublé du phosphore sur le carbène. Bon, en plus, là, il avait un silicium. Ici, non. Mais donc, ils peuvent isoler ce nitrène dont ils ont montré, a priori, est singulé, qui a un déplacement du phosphore de 7,7 ppm, donc qui suggère qu'a priori, on a un PW liaison N, voire peut-être plus, mais donc N-P+, ici. Alors, comment on l'engendre? Ça va être assez classique en UV. On photolyse ce dérivé azido, qui, lui, peut être obtenu à partir du phosphénium correspondant. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà une structure RX. On peut faire réagir ce nitrène avec un isonitrile. On obtient ce carbodiimide ici. Et puis si ensuite on fait réagir avec un carbocation, on obtient le dérivé de phosphore de départ qui peut refaire un cycle et ainsi de suite. Donc il s'amusait à refaire toutes les étapes de la synthèse et aussi à montrer les différents intermédiaires potentiels. Donc très bel article où il y a toutes les caractérisations, RMN, RX, calcul, et ainsi de suite. Calcul fait par Frank King, je dois préciser. Plus récemment, deux papiers qui se ressemblent beaucoup ont montré, par contre, l'isolement d'un nitrène triplé. Et c'est souvent le cas dès qu'on a affaire à des nitrènes sur un aryl. Et là aussi, la même stratégie, on va faire la photolyse de ce N3, on va obtenir ce nitrène, qui, lui, du coup, ne donne pas de signaux RMN, en donne en RPE, dont les propriétés magnétiques ont été étudiées. Et donc, tout ça va dans le sens d'un nitrène triplé, qui, si on le chauffe à l'état solide, peut évoluer selon cette réactivité, donc cette insertion CH. Et ce nitrène 2, il est stable comme solide pendant au moins 3 jours, notamment s'il est, stocké sous argon et à température ambiante, mais bon, donc il a une certaine stabilité. Alors évidemment, le fait qu'on ait ces spiraux indènes va aider à la stabilisation. Et c'est sur la même idée que en fait le groupe là de Tan va lui aussi isoler ce nitrène là aussi triplé, donc il va encore augmenter l'encombrement stérique autour du nitrène. Même stratégie pour obtenir ces dérivés là qui est stabilisé par délocalisation, hein. Il y a une densité de spin ici non négligeable quand on fait les calculs. Voilà la structure RX. Ils ont fait aussi les études RPE. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de ce nitrène qui, malgré tout, malgré toute sa protection, est quand même relativement réactif, puisqu'on va pouvoir faire un immunophosphorane à température ambiante ou faire une 2 plus 1, donc une aziridine, ici, toujours avec le styrène, ici, toujours à température ambiante, une insertion CH dans le DMF. Et puis, il va également avoir le même type de réactivité que tout à l'heure. Il va faire une insertion CH, mais là aussi en chauffant à l'état solide. Alors, c'est des réactions qu'ils peuvent faire en solution, mais ils les ont faites d'abord initialement sur les solides. Et puis, si on le laisse évoluer dans du THF, ben, en fait, on obtient l'aniline correspondante, donc en fait une dégradation du nitrène. Donc voici quelques, c'est vraiment des papiers assez récents. montrant que ces espèces peuvent être quand même caractérisées. Ce que je devrais dire aussi, c'est que ce qui est caractéristique de ces nitrènes, c'est évidemment une liaison carbone-azote très courte, hein, largement inférieure à 1,3 angstrom, et même proche de 1,25, donc très, très comprimé. Alors donc, on a des espèces très, très réactives, dont le potentiel synthétique, et c'est, je pense qu'il va être confirmé par mes deux collègues après, qui sont vraiment spécialistes de la manipulation de ces espèces et aussi d'avoir trouvé des nouveaux chemins pour les engendrer, c'est que la meilleure façon probablement de leur donner un peu, comme on dit en biologie, ou de leur donner un chaperon, c'est-à-dire autrement dit leur mettre un peu un capuchon, et puis hop, quand on les met dans un milieu réactionnel, on enlève le capuchon et puis ça réagit. Donc là, ça va être un métal. Et le choix des métaux pour faire ça est assez vaste. Et globalement, la première publication là-dessus, c'est simplement en prenant un azide ici et de la poudre de cuivre. Donc c'est les travaux de Quart et Kahn en 1967. Ils montrent qu'a priori, on forme bien le nitrène qui va faire de la ziridine, qui fait une insertion CH ici et probablement ici, mais on a probablement eu isomérisation. Et puis ce papier, qui est quand même assez intéressant, montre aussi qu'on peut faire une sulfoxymine. Je reviendrai sur ces dérivés-là. Sulfoxymine, c'est l'attaque du nitrène sur un soufre déjà oxydé. Et globalement, donc là, cuivre zéro, bon, c'est ce qui est décrit. Ce qui est apparu aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres types de complexes métalliques, donc notamment les complexes à base de porphyrine. Ça, c'est les travaux de Groves, initialement, pas sur la nitrène, mais sur d'autres aspects, Breslau et Mansuit. Les sels de cuivre par Evans, hein, qui vont permettre vraiment la catalyse asymétrique facilement. Et puis toute la chimie des sels de rhodium, dont Philippe nous parlera tout à l'heure. Alors, c'est évidemment, l'idée, c'est d'être plus chimio, régio, aussi stéréosélectif, et évidemment de faire de la catalyse asymétrique. Donc là, évidemment, on en est encore un petit peu loin, et maintenant, on arrive à des systèmes quand même qui sont très aboutis et qui peuvent vous donner des très belles réalisations. Et vous verrez aussi que ces développements de catalyse organométallique ont été accompagnés du développement de nombreux précurseurs de nitrène. Vous verrez la liste récente que j'ai pu trouver dans une revue qui est assez intéressante. Alors, j'avoue que par où commencer, parce qu'il y a énormément de choses, et puis je ne voulais pas non plus empiéter sur ce que faisaient mes collègues, donc je me suis concentré sur l'apport de ces porphyrines de fer, et notamment cette mésotétraphényl porphyrine chloride, donc un complexe d'or 3, commercial, utilisé pour pas mal d'applications différentes, dont de la chimie radicalaire récente, hein, le radical sorting et ainsi de suite, et qui est une plateforme en fait de stockage d'intermédiaires réactionnels assez exceptionnelle. Même si évidemment il y a eu des évolutions et qu'on arrive à d'autres systèmes parfois qui sont largement plus intéressants et qui vont permettre de résoudre d'autres questions. Donc ça, c'est les travaux de Coleman à Stanford, hein, qui avait montré qu'en fait l'idée c'était d'utiliser ces porphyrines de fer comme MIM de la partie M des protéines M, et donc faire toute la chimie biomimétique d'oxydation, de formation de liaison carbone-carbone ou carbone-azote. Et donc c'était vraiment une idée, on va dire, c'est la biologie qui a poussé à développer ces systèmes catalytiques, donc biomimétiques. Groves a été, alors il était à l'Université du Michigan, maintenant il est à Princeton, elle a aussi été un très gros contributeur, et notamment c'est lui qui a montré qu'avec le iodosylbenzène, on pouvait faire des complexes fer oxo très très oxydants et qui pouvaient faire des époxydes et ainsi de suite. Donc une chimie très riche, et donc ça a été un peu le début de tout ce travail, donc dans les années 70. Des revues intéressantes, celle de Emma Gallo à Milan, 2009, qui est un bon point d'étape sur les avancées de l'époque. Et puis actuellement, ce qu'aime rêve, là, par Château Padiaiai, qui est particulièrement intéressante, puisque là, il revoit toute la chimie des nitrènes à partir des métaux, des base metals, donc cuivre, fer, manganèse. Je ne vais pas parler du manganèse, mais le manganèse aussi est très présent dans toute cette, cette chimie. Alors, pourquoi ça m'intéressait ? C'est parce qu'en fait, il y a eu un parallèle, et donc, comme je l'ai dit, il y a une dualité toujours carbone-nitrène, c'est que les accompagnements sur les nitrènes, en fait, étaient aussi en parallèle avec ce qui se passait pour les carbènes. Et notamment, ce qu'un certain nombre de labos ont pu montrer, c'est qu'on pouvait faire partir de, ces, de cette porphyrine fer 3 et mettre un réducteur et faire, par exemple, et isoler le complexe ici dichlorocarbène fer 2 porphyrine. Ce complexe ici dans ces travaux-là de Mansuy donc a pu être isolé. Une structure RX l'a confirmé, le spin global du complexe est zéro, donc on a quelque chose qui est tout à fait analysable aussi en RMN, et donc c'est bien du fer 2, et voici d'autres complexes fer 2, spin 0, qui ont été complètement caractérisés par RX, venant de différents groupes, notamment cette contribution très intéressante là, d'un groupe à Grenoble, là, du groupe de Latour et Sorokin, qu'on montrait ce type de complexe. Alors pourquoi ces complexes de carbène sont intéressants ? Parce que déjà, là, finalement, on jugule la réactivité très forte d'un intermédiaire réactionnel, mais on peut le libérer. Et c'est ce qu'avait montré Suslik. Si vous prenez par exemple ce chlorofluorocarbène fer 2 porphyrine, si vous irradiez, vous allez pouvoir libérer le carbène libre, donc le free dihalocarbène, et si vous mettez par exemple du cyclohexane dans le même milieu réactionnel, vous allez pouvoir former le produit de cyclopronation avec un bon rendement, une certaine diastéro-sélectivité, et donc c'était intéressant, ça validait aussi que peut-être qu'on pouvait faire de la catalyse avec ces systèmes. Effectivement, un papier fondateur, c'est celui de Kodakek et Wu, là, en 1995, qui ont vraiment développé le transfert catalytique de cyclopropane à partir des porphyrines, en prenant comme précurseur de carbène des composés diazo. Alors déjà, l'idée, c'était de... Il y avait un certain nombre de choses qui avaient été faites en parallèle avec les porphyrines d'osmium 2, celles de rhodium 3. Donc globalement, on est iso-électronique, donc le fer pouvait fonctionner. La littérature sur cette chimie est particulièrement abondante. Et pas toujours non plus complètement claire, sans reprendre d'ailleurs complètement les avancées des uns et des autres. Donc ça, c'est pas toujours facile de trouver les informations. Donc globalement, ce qu'on va pouvoir obtenir, c'est ce cyclopropane avec deux isomères, un cis et un trans. Et d'une façon générale, ce qui était intéressant de voir, c'est que les porphyrines pouvaient être très réactives, notamment celles où vous avez des fluores ici en para. Hein, là, vous voyez, le ton est particulièrement élevé, donc c'est un très bon catalyseur. On a également une diastéro-sélectivité trans très élevée et qui était assez étonnante parce qu'en fait, elle était complètement contraire à celle qui était observée avec le rhodium 3 qui était, lui, donné des composés 6. Au niveau du scope, comme on dit, alors les systèmes stériles marchent très bien. Les alcènes 1-1 disubstitués marchaient bien. Des alcènes relativement enrichies par un groupement méthoxydonneur. Et par contre, si vous passez à par exemple de l'hexène, simple alcène alkyle, vous allez avoir beaucoup du dimère de scarbène, et donc vous allez avoir des maléates, fumarates, ainsi de suite. Bon, et ça, c'est le assez classique dans ce genre de chimie. J'en avais d'ailleurs parlé un petit peu là. On en avait parlé au cours dernier. Donc voilà, donc ça, c'est malgré tout c'est une réaction qui a pu être développée. Et donc, comment expliquer ? Alors, le résumé est assez long, mais on va reprendre les choses. Donc, système très actif avec les styrènes, en utilisant l'éthyl diazotate. On peut utiliser une porphyrine fer 2 qui est préformée comme catalyseur, et ça va tourner. Mais évidemment, c'est pas forcément souhaitable parce que là, du coup, on a une espèce qui est quand même particulièrement instable. Donc, il vaut mieux partir du pré-catalyseur de fer 3 qui, comme je vous l'ai dit, est commercial et facile, et de le réduire in situ, puisque, a priori, c'est une espèce FER2 qui est l'espèce active. Alors, comment il se réduit ou comment on le réduit? Ce qu'ils ont montré, c'est que l'EDA, donc l'éthyldiazo acétate, pouvait être le réducteur, surtout si on chauffe à 80 degrés. Ça peut se faire aussi à température ambiante, mais c'est beaucoup plus long. Alors évidemment, si vous faites votre réaction à 80 degrés, du coup, votre diastéréosélectivité, elle va être moins bonne. Et finalement, ce qui a été la meilleure pour eux, c'est d'utiliser un réducteur, et ils vont utiliser le cobaltocène comme réducteur pour être sûr d'être toujours en système FER2. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici dans les conditions. Voici ce cobaltocène qui va permettre d'être toujours en FER2. Alors, donc ça va permettre de travailler à température plus douce. Comme je vous l'ai dit, celle avec un fluoro est très bonne. La diastéréosélectivité du fer est semblable à celle de l'osmium, mais contraire à celle du rhodium. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a priori, et d'après des calculs et des modèles, un état de transition beaucoup plus tôt avec le rhodium. Parce qu'en fait, globalement, on a un complexe ici qui va être beaucoup plus électrophile. Et l'interaction entre l'oléphine et du coup la porphyrine va être déterminante, puisque globalement, on a ici quelque chose qui est déjà bien avancé au moment où de la 2 plus 1. Alors qu'avec les complexes moins électrophiles, osmium 2 et FER2, on va avoir un état de transition plus tardif. Et en fait, globalement, on a quelque chose qui est un petit peu moins également concerté. Et c'est l'interaction du groupement ester avec les substituants de l'alcène qui deviennent importants. Et donc, on va avoir un état de transition qui positionne votre alcène de cette façon. Par rapport à la porphyrine. Donc on comprend ici, par exemple, que si vous avez un substituant ici, ça va beaucoup moins bien marcher. Et donc, par exemple, les oléphines qui étaient dissubstituées ne marchent pas par cette catalyse au fer. Donc on a un état l'état de transition est singulièrement différent par rapport à celui du rhodium qui autorise ça, parce que dans le cas du rhodium, au contraire, on a un état de transition qui est complètement, qui a une géométrie très différente. Et ce qui va être important pour guider la diastéréosélectivité ici, c'est l'interaction entre ce groupement R, soit qu'il soit petit ou large, avec le groupement ester. Et donc d'une façon générale, on va privilégier plutôt cet état de transition où là l'interaction est moindre pour obtenir ce produit trans. Donc c'est ce qui a été proposé et globalement admis dans la littérature. Donc on peut, en jouant avec le complexe métallique, jouer sur contrôler des diastéréosélectivités. Alors, donc ces porphyrines de fer sont intéressantes, je l'ai dit, pour piéger des carbènes, et un certain nombre d'applications très récentes ont été développées, et notamment, je ne sais pas si vous êtes tombé sur cet article là de Najib, a voulu vraiment établir une carte de la polarité des carbènes, et ça fait quelques années qu'il travaille sur différents précurseurs de carbène, et dont je vous avais déjà d'ailleurs parlé la semaine dernière. Et là, finalement, il est arrivé à utiliser des composés dichlorés. Alors, il se trouve que apparemment, il y en a 25 000 qui sont connus et il y en a 5 000 qui sont commerciaux. Mais sinon, vous pouvez les faire aussi assez facilement à partir d'un aldéhyde, hein, en utilisant du PCl5. Et donc, en mettant du zinc, vous allez pouvoir former ce radical alpha-chloré, et globalement, en présence de la porphyrine, vous allez faire le complexe carbène identique à celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui, lui, pris en présence de différents types de partenaires, va pouvoir réagir. Et donc maintenant, l'intérêt, c'est de classifier l'électronique de ce groupement R et comment ça va moduler la réactivité vis-à-vis d'une oléphine acceptrice, oléphine riche, vis-à-vis d'un partenaire de CH ou XH, donneur, accepteur, enfin plus ou moins riche. Et donc il va avoir trois catégories de carbènes, soit des carbènes dits donneurs, soit globalement neutres, soit relativement accepteurs. Bon, alors, je veux dire, c'est relativement intuitif. Donc, donneurs, ça va être des carbènes nucléophiles, donc ça va être des groupements mésomères donneurs ou des alkyles. Neutres, aryles, et des hétéroatomes, type silicium, bore, donc phényl, aryl, oui, ou chlore. Et puis, accepteurs, bah, dès qu'on a des groupements mésomères accepteurs, on va avoir des carbènes électrophiles qui vont donc réagir différemment avec ses partenaires. Le MODOP, il est très simple. On prend un composé dichloro, on met l'accepteur, quel qu'il soit, la fameuse porphyrine, du manganèse comme réducteur, et on obtient le produit de cyclopréhension. Ou alternativement, la porphyrine et du zinc, et dans ce cas-là, un petit peu de d'iodure de lithium pour activer le zinc, et on obtient les mêmes types de produits. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'en fait, il a étudié la corrélation de la réactivité avec un certain nombre de descripteurs du système, la plupart étant calculés. Donc là, HOMO et LUMO de ce complexe. Les shifts du proton ici et du carbone 13 ici. Un certain nombre de constantes de Hamet, de facteurs de résonance et fil. Alors, tout ça, c'est relativement lié, ça se calcule. Pareil pour l'electron density, l'électronégativité, l'électrophilicité. Alors, je lui ai écrit, je lui ai demandé quelle était la différence qu'il voyait entre l'électrophilicité et l'électronégativité. Alors, l'électrophilicité, c'est en fait l'électronégativité plus la dureté du carbone. Donc voilà, donc tout ça, 13 paramètres. Et en fait, par rapport à la réactivité, ça c'est intéressant de voir la figure, je ne l'ai pas montré, mais il n'y a aucune corrélation évidente. Par contre, si vous sélectionnez les 4 qui sont en gras ici, vous allez commencer à avoir une relativement belle corrélation entre les valeurs obtenues et la réactivité du carbène. Et donc, ça c'est le carbène, les substituants du carbène, et les 4 points avec les 4 descripteurs. Donc vous voyez, pour certains cas, c'est très rapproché. Pour d'autres, c'est les 4 descripteurs donnent une réactivité, mais on est obligé de moyenner, et la moyenne, parfois, elle est quand même particulièrement dure à trouver. Mais donc c'est quand même relativement intéressant, et donc il retrouve cette notion de donneur, neutre et accepteur. Et d'autres graphes qui confirment que globalement, si vous avez un carbène et qui va être, il peut réagir soit avec une SIH ou une soufre H, ou avec une oléfine acceptrice, les carbones donneurs vont être plus réactifs ici en bleu. Donc les bleus ici, donc les rendements ici vont être meilleurs que les accepteurs, et ici c'est l'inverse, et en fait les carbènes accepteurs vont réagir mieux avec ce type de réactif. On a des meilleurs rendements qu'avec les carbènes donneurs. Bon, c'est relativement intuitif. Alors, si vous êtes intéressé par toutes ces évaluations de polarité, travail qu'il a déjà fait pour les radicaux, vous pouvez consulter ce site. C'est-à-dire que là, en fait, c'est du machine learning. C'est-à-dire que vous rentrez une structure et vous pouvez avoir une évaluation de la polarité de votre intermédiaire. Voilà. Alors, on va revenir sur les nitrènes, parce que c'est quand même aussi le titre d'aujourd'hui. Et donc, un des papiers très intéressants, c'est Breslow et Gell-Mann, qui montrent que cette porphyrine permet de faire le transfert de nitrène, notamment en utilisant cette iminophénylionidane comme précurseur de nitrène. Et donc, on peut écrire cette équation très simple. Donc, on part du iodinane, on prend du manganèse ou du fer, on met du cyclohexane et on va avoir le produit d'amination. Et c'est une réaction qui est relativement décrite. Alors, c'est un chemcom, c'est assez rapide. On est loin des articles d'aujourd'hui avec 150 pages de SI. Mais intéressant, d'ailleurs, le terme nitrène n'est pas publié, n'est pas mentionné dans l'article. Alors, allons plus loin dans l'histoire. D'où venir ce réactif ? Parce que finalement, c'est un réactif qui est utilisé abondamment. Et le premier papier qu'il mentionne, et je suis d'ailleurs surpris qu'il n'ait pas de nom, enfin, peut-être Philippe, tu sais, ou je sais pas, Guillaume, mais a priori il n'a pas de nom, alors qu'il pourrait s'appeler le réactif de Yamada, parce qu'a priori C'est ces trois auteurs, ou Yamada, Yamamoto, Kawara, alors c'était trop long, c'est pour ça qu'il n'a pas de nom, mais c'est eux qui ont développé ce réactif en mélangeant du diacétoxybenzène. Oui, j'aurais dû écrire. C'est ici. Sur une aniline, une sulfonamide, pardon, et on obtient assez facilement ce diimido-iodinane. On peut jouer avec l'aromatique. Et évidemment, on peut écrire cette structure limite hein, sur cette diimido-iodinane. Et il montre en fait que ce réactif, bon, si on le chauffe, il va pouvoir transférer un nitrène assez facilement sur un disulfure, ici sur un sulfure, où on peut faire l'iminophosphorane très facilement. Donc globalement, c'est vraiment un article très intéressant et le nombre d'utilisations de ce réactif est vraiment impressionnant. Alors, en parallèle, donc, ici, Breslau, 1982, en parallèle donc à Paris, donc à l'époque à l'ENS, donc par le groupe de Daniel Mansuy et un certain nombre d'autres chimistes connus, ils ont pu également montrer qu'on pouvait obtenir des aziridines à partir, en utilisant des doubles liaisons ici de type styrène, donc aromatique, donc des systèmes stériles, et donc on va obtenir des aziridines avec généralement une supériorité d'ailleurs des porphyrines de manganèse à celles de fer. Et l'autre, alors ce qui montre c'est que le iodo-benzène est formé de façon quantitative, donc on forme vraiment le nitrène de façon efficace. C'est après comment il évolue, soit il est piégé par la double liaison, soit globalement il réagit, il est hydrogéné pour donner cette tosylamide. Ainsi de suite. Donc globalement les rendements peuvent être bons. Le MODOP est d'une simplicité vraiment très simple, et on peut séparer donc les produits qui sont stables et ainsi de suite. Donc confirmation donc de cette réactivité. Intéressant de voir, comme je vous ai dit, que les porphyrines de manganèse et celles de fer peuvent être assez différentes, mais que si aussi on joue avec les porphyrines, on peut avoir une réactivité différente. Donc par exemple, si on les rend très électrophiles en mettant des orthodichlorophénylporphyrines, on va avoir 70% de CH amination. Donc là, on n'a pas du tout d'aziridination, pratiquement pas. Si par contre, on repasse à cette porphyrine manganèse TTP, on va avoir beaucoup d'insertion, mais un petit peu d'aziridination. Et si vous faites la même réaction avec celle de fer, ben là, en fait, vous inversez quand même de façon très significative le rapport. Donc, le métal est très important et le ligand, évidemment, l'est. Okay. Et globalement, plus vous êtes électrophile, plus vous allez favoriser la CH amination. Alors, maintenant, quelles sont les espèces réellement réactives dans ce type de chimie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le premier complexe fer-porphyrine-nitrène était isolé dans cet article, hein, de série d'articles JAX 82 et JAX 84, en partant en fait plusieurs voies pour accéder à ce cristal. Soit on part de la porphyrine avec fer 2, dont je vous ai dit qu'elle n'était pas forcément hyper facile à manipuler, mais enfin on peut la faire. Et on se débrouille pour engendrer le nitrène d'une façon autre, et on obtient le complexe, ou on se met en milieu oxydant de façon différente pour que en fait le fer ici oxyde hydrazine. Pour obtenir ensuite, donc le fer, du coup, a priori, il va être réduit in situ. On obtient donc le nitrène qui va réagir avec le fer 2 pour former ces complexes. Et dans tous les cas, on a le même complexe. Alors, si vous regardez les RMN, c'est assez intéressant. Hein, vous avez du shift des protons de 80,5 ppm à moins 15. Donc, effectivement, il vaut mieux être vigilant quand on fait ce genre de RMN parce qu'on peut passer à côté. Il n'y a que les aromatiques qui restent dans des régions à peu près compréhensibles. Et donc, en mettant des deutériums sur les aromatiques, on enlève ces pics, il reste ces pics-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand vous avez ce complexe, donc nitrène-fer, et que vous mettez de la pyridine D5, vous libérez le nitrène qui dimérise. Donc, on obtient donc ce dimère de nitrène. Et donc là, a priori, on a des complexes de fer 2 avec un spin beaucoup plus élevé. Alors la question de savoir, est-ce qu'il y a une relevance catalytique par ailleurs, est-ce que ces complexes fer 2 nitrène ont une viabilité catalytique? Alors c'est pas complètement évident, parce qu'a priori, un certain nombre d'articles ont été contradictoires. Et notamment, le mécanisme initial proposé, c'est qu'en fait, on passerait plutôt par un fer 5 imido, donc une espèce très très réactive, dont on peut aussi écrire cette structure limite fer 4 avec un radical sur le tosylamide, et donc qui va réagir avec une double liaison. Addition du radical azoté, ici on forme ce radical qui ensuite retape sur l'azote, élimination du fer 3, donc le fameux rebound où on élimine le fer. Potentiellement, on pourrait passer aussi par ce fer 5. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des. Donc, ils ont essayé d'isoler le potentiel complexe fer 5, mais en fait, quand ils font ça, c'est-à-dire quand on met un l'iminoiodinane avec cette porphyrine, on n'obtient pas ce complexe, on obtient ce complexe ici, qui a été cristallisé totalement, enfin totalement caractérisé, notamment par RX. Et ce complexe 2, il est très stable, il est stable vis-à-vis de l'oxygène, alors il est haut spin. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous le mettez à réagir par exemple avec un styrène ou autre, il ne va pas transférer le nitrène. Par contre, si vous le mettez dans les conditions de réaction, vous avez bien un cycle catalytique, enfin vous pouvez le refaire une azérélimination par exemple de façon catalytique. Donc, pas très clair exactement si cette espèce. En tout cas, si on passe réellement par ce fer 5 comme espèce active, parce que en fait, ça voudrait dire qu'elle libère très rapidement son nitrène avant d'évoluer vers ça qui, lui, a priori, ne délivre pas le nitrène. Donc, c'était pas complètement évident. Très récemment, je suis tombé sur cette littérature qui elle mérite un petit peu de réconcilier la chimie des carbènes avec celle des nitrènes. C'est-à-dire qu'en fait, dans cet article, avant tout théorique, ce que dit ce Mandal, c'est que globalement, dans les M, dans les protéines M, on a besoin de réduire le fer 3 en fer 2 pour faciliter des réactivités de type carbène. Et ce qu'il dit, c'est que les complexes fer 3, ici, avec cette géométrie, sont totalement inactifs parce que globalement, on ne peut pas avoir une interaction fer-nitrène due à la très grande distance, alors que dès qu'on passe en fer 2, on va avoir un complexe plan ici qui peut beaucoup plus facilement interagir avec un précurseur de nitrène. Donc la barrière pour faire un fer 5 nitrène ici, comme on voit, donc imido, est très élevée. La thermodynamique, a priori, n'est même pas favorable, alors que maintenant, si on part d'un complexe fer 2 porphyrine, la barrière serait moindre et la thermodynamique, donc là, c'est un fer 2, mais en fait, on peut le comprendre comme un fer 4 imido, hein. Où votre azote est un ligand, on va dire, XX, quoi. Et cette espèce-là, elle serait relativement viable. Donc, en fait, le complexe qui est ici est écrit de cette façon-là, donc fer 4 imido ou fer 2 nitrène ou fer 3 imidyl. Et l'expérience qui valide ça, c'est d'autres travaux donc de Château Padaya, qui a montré qu'en partant... Alors, on peut toujours dire que ce n'est pas le même système, c'est pas les mêmes précurseurs de nitrène. Et là, on garde une CH amination. Mais globalement, on peut faire cette amination benzylique ici en utilisant cette porphyrine, qui évidemment n'est pas exactement la même. Et globalement, cette réaction ne marche que si on met du zinc comme réducteur. Donc globalement, ça irait dans le sens où on a besoin d'en engendrer ce fer 2 pour enclencher la catalyse. Donc on réduit le fer 3 en fer 2. Là, il y a une erreur ici, mais globalement, on va transiter assez rapidement vers un fer nitrène qui peut ensuite, avec ce radical aminyl, va faire l'arrachement de l'hydrogène ici, former ce radical basilique qui va retaper ici sur l'azote pour former le produit. Donc à suivre, mais vous voyez, donc c'est des papiers très récents et donc il y a cette évolution, cette hypothèse mécanistique qui est quand même relativement intéressante. Alors l'autre apport très important dans les réactions d'azinération, c'est l'apport de David Evans à Harvard, qui a montré qu'un certain nombre de sels de cuivre, donc là on est vraiment dans le très simple, pouvaient faire les arénisations d'un certain nombre d'alcènes. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être du cuivre 2 ou du cuivre 1. Avec des rendements qui sont assez bons. Une diastéréosélectivité assez bonne, c'est-à-dire que globalement, la réaction est généralement stéréospécifique. Celui qui peut toujours être un petit peu plus compliqué, c'est tout ce qui est cis-tilbène, parce que là, globalement, c'est toujours le cas où on peut avoir des diastéréosélectivités un peu étonnantes, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Mais globalement, la catalyse au cuivre est plus stéréospécifique que généralement celle avec les porphyrines de fer ou de manganèse. Et ils ont éliminé a priori une voie radicalaire en prenant ce substrat ici, qui avait tout pour donner un produit d'ouverture, mais en fait il forme bien le produit ici d'aziridine où le cyclopropane n'est pas touché. Et donc globalement, a priori un chemin radicalaire ou un formatrice radical qui s'ouvre vite n'était pas confirmé. Et donc c'est une chimie qui est assez générale, qui est assez facile à mettre en œuvre. Et surtout, évidemment, qui dit cuivre, ça se prête très bien à la catalyse asymétrique, parce que en utilisant des ligands bisoxazéline, vous pouvez avoir maintenant des complexes chiro qui vont pouvoir vous donner d'excellentes inductions asymétriques. Par exemple, sur ce type de système ici, donc vous voyez 97% de. Donc, ça, c'est le système Evans. Il se trouve qu'en parallèle, Jacobsen, lui, travaillait sur ces ligands-là pour la catalyse asymétrique et va lui aussi montrer qu'on peut avoir de la zidérination énantiosélective vraiment avec très, très, c'est très efficace avec ce type de ligand basé sur un scaffold diamine. Alors, je ne parlerai pas de tous ces complexes au cuivre, mais voilà. Et, vous voyez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de développement, donc c'est intéressant. Il y a cet article de Bethley qui les reprend. Il y a des complexes chiro, d'autres moins. Ils ont différents types d'applications, mais bon, donc, vous voyez que le ligand design a été abondant et régulier et d'ailleurs continu. Alors, il se trouve que nous-mêmes, au labo, donc travaux de Marine de Sagelmur, s'intéressait aux ligands non innocents. Ce complexe de cuivre 2 avec des ligands semi-quinones, donc non innocents, permettent de faire des réactions d'azidérination assez efficaces par un mécanisme original, dans le sens où le cuivre garde son degré d'oxydation tout le long du chemin. Et c'est les ligands périphériques donc, qui vont prendre en charge les flux d'électrons. Donc on part ici d'un complexe bisemiquinone, on forme le complexe cuivre-nitrène, mais dans ce cas-là, un des ligands est devenu imino-benzoquinone, donc oxydé. Ce complexe peut évoluer éventuellement vers un complexe bis-nitrène, donc dans ce cas-là, avec deux ligands benzoquinone ici. Donc les états de spin ont été calculés par Malice Orio. Maintenant, à partir d'ici, on peut faire cette azérélination, a priori via addition du radical ici, parce qu'on a une densité de spin sur cet azote. Et globalement, ensuite, on forme le produit et ça peut refaire un cycle. Et donc, on retrouve l'état électronique du complexe mononitrène. Donc, ce qui est intéressant, comme je le disais ici, c'est de faire varier le degré d'oxydation des ligands qui passe donc d'imino-semiquinone à imino-benzoquinone. Alors, plus ancien au labo, ce qui avait éveillé notre appétit dans les années 2000, c'était de montrer que des sulfoxydes pouvaient donner facilement des sulfoxymines juste en utilisant des sels de cuivre 2. Parce que le cuivre 1, comme vous le savez, est sensible à l'oxygène et ça, c'est potentiellement un problème. Donc si on peut le faire avec des cuivres 2, c'est facile. Donc les travaux d'Evans étaient très suggestifs de cette possibilité puisqu'il disait qu'au vu que l'iode 3 est assez oxydant, donc l'imino-iodinane, on peut très bien imaginer, on peut vraiment facilement concevoir que si on a du cuivre 1, c'est plutôt le cuivre 2 qui résulte de l'oxydation, qui va être l'espèce active. Effectivement, pas mal de sels de cuivre peuvent être utilisés. Cuivre triflate, du cuivre Cl2 avec un peu moins d'efficacité. Le cuivre Cuivre sulfate, non. Cuivre à cac, ok. Bon, c'est une réaction qui marche assez bien. Ce qui est particulièrement intéressant, quand on y regarde bien, c'est qu'en fait, elle est complètement chimio-sélective. Hein, il n'y a pas de... Vous ne touchez jamais à votre double liaison. Tout se passe sur le soufre. Qu'elle est stéréospécifique, si vous avez un sulfoxyde homochiral, vous allez obtenir une seule sulfoxymine. Et en fait, globalement, votre nitrène va se mettre là où vous aviez votre doublé. D'accord ? Donc, vous avez une rétention de configuration au niveau du soufre. Pourquoi ne pas pousser plus loin au sulfonimide ? Et donc, il se trouve que deux groupes ont travaillé sur cette chimie en même temps, et avec un certain nombre de personnes connues et présentes dans cette salle aujourd'hui. Donc, le groupe Malacry à la côte, nous, on était intéressés par ces N-benzoyl sulfonimide en utilisant ce FIO comme réactif, donc ce iodosylbenzène, et on peut effectivement former des azéridines avec un groupement sulfonimide ou faire réagir soit sur des sulfoxydes ou des sulfures, par exemple pour faire des sulfinylimines ici. Donc les rendements sont assez bons. Les diastéroxyactivités n'étaient vraiment pas superbes. Ce qui était embêtant parce que l'idée c'était de faire un nitrène chiral, quoi. Donc si vous avez qu'un seul, on va dire, si votre soufre est contrôlé, ça devient intéressant, mais à partir du moment où vos diastéroxyactivités ne sont pas très bonnes, ça peut quand même être... l'approche est un peu limitée. Et donc le groupe de Philippe à GIF travaillait aussi là-dessus, donc réaction très semblable, avec un peu les mêmes conditions, pas le même sel de cuivre, des bons rendements d'azithromycine, et donc avec la contribution notamment de Camille Lescaut, ils ont pu montrer, rendre cette réaction très diastéro-sélective dans certains cas, notamment avec les acrylates, et notamment aussi en changeant l'agent de transfert de nitrène. Dès qu'on met ce groupement nitro et avec des acrylates, on peut obtenir des produits avec des bons rendements et des très bonnes diastéro-sélectivités. Et évidemment, si vous ouvrez cette azéridine, vous avez maintenant un aminoacide, donc un potentiel relativement intéressant. Donc, je ne parlerai pas de la suite des travaux de Philippe sur cette chimie parce qu'il a fait beaucoup de choses. Nous plus. Alors, donc, comme je vous ai dit, des précurseurs de nitrène, si vous êtes intéressé par cette chimie, cette revue dans Chemagian est vraiment bien. Elle vous résume à peu près toutes les molécules, tous les substrats de départ qui ont été utilisés comme précurseurs de nitrène. On parlait de Smith par photolyse. Les hydrazines où on oxyde et on va obtenir le N-nitrène ici. Et puis après, ça peut être, on peut libérer nitrène par ici, rupture de, par NO. Ici, là aussi par NO, on va libérer du CO2. Alors c'est soit thermiquement, soit photochimiquement, soit avec des métaux de transition. Donc Yamada, il est là. Les azirines ici par Alper. Après, les méthodes in situ, des nitroso ou des nitroxydes en présence de phosphite, généralement. Ça, c'est ces réactifs-là, HMI et Zang, ont été utilisés pour faire des réactions en catalyse à l'or, où on a introduit un nitrène, en fait, sur le groupement insaturé, sur la triple liaison. Ça c'est intéressant, c'est Levin qui a introduit ses amides à effet anomère. J'en avais un petit peu parlé l'année dernière, mais j'en parlerai bientôt. Et puis également ces composés-là, par exemple, par Hélène Lebel, qui en présence de base et d'un métal de transition va vous donner l'acyl nitrène assez facilement. Aujourd'hui, j'ai retenu ce réactif-là de Willis, et vous allez voir pourquoi, parce qu'en fait, il nous revient toujours sur ces sulfoxymines. Alors, ces sulfoxymines, pourquoi c'est intéressant ? C'est potentiellement des ligands. Ça peut être aussi des molécules bioactives. C'est des bons... des bons bioisostères de sulfonamide, de même d'amide. Et donc, ce qu'a proposé Willis... c'est ce type de réactif, c'est sulfinyl hydroxylamine, comme ce bifonceau, très stable, on peut le faire sur 2,3 grammes, en fait il est même commercial. Et globalement, si vous mettez un grignard dessus, Vous allez passer, vous allez d'abord une première réaction de formation de carbone-soufre. Et ensuite, ici, vous avez potentiellement une alpha-élimination pour vous donner cette espèce qui est en fait un nitrène et qui peut réagir une deuxième fois avec un organométallique pour vous donner la sulfoxymine ou avec une amide pour vous donner le sulfonylamide. Alors, ce qui était intéressant, donc voici la proof of concept, pour pouvoir montrer que ça marche. Donc, si on prend par exemple ce dérivé de départ et qu'on met ce grignard une fois, puis celui-là ensuite, on va pouvoir obtenir cette sulfoxymine, vous voyez, avec 83% de rendement. Ou si on met maintenant cette morpholine, on va pouvoir obtenir le sulfonylamide ici avec un bon rendement. Et évidemment, ici, on finit avec un N- qui peut être encore piégé par un électrophile. Et donc, on peut, du coup, à partir de ce réactif, vraiment avoir un degré de fonctionnalisation important. On introduit deux aromatiques, plus un substituant sur l'azote, qui peut être acyle, ici, ou pour former une urée, ou une cyanamide. Et en parallèle, donc, on peut former différents sulfonylamides. Alors, le mécanisme, donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le scope, mais vous voyez qu'on a une liberté assez importante sur les amines qu'on va pouvoir rentrer, et avec des molécules qui ont des profils pharma assez intéressants. Et alors, donc, ce qui était intéressant, c'est le mécanisme, comment ça marche. Donc, comme je vous l'ai dit, a priori, si on a une première étape, on va former la liaison carbone-soufre ici. Et si on met de l'acide triflique, on va pouvoir isoler ce dérivé qu'on peut considérer comme un sulfonimidate. Et ensuite, si on additionne un grignard dessus, on va en fait pouvoir... Alors, on va déprotoner, voilà, excusez-moi, on va déprotoner ici, obtenir in situ le nitrène, puisqu'il va perdre le OAR ici, et on va obtenir cet intermédiaire ici, donc en équilibre avec la forme fermée. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir le deuxième réactif qu'on additionne, comment il va réagir avec ce nitrène, et en fait, on a une forte différence de réactivité selon la taille du nucléophile. C'est-à-dire qu'avec un aryl grignard, on va avoir l'alkylation telle qu'on l'a présentée globalement sur le soufre et on obtient la sulfoxymine sans souci. Mais par contre, si on met un grignard très encombré, comme du terbutyl grignard, ce que vous voyez, c'est qu'on obtient dans ce cas-là la sulfinamide. Et on n'obtient pas du tout ce produit-là. Et donc, ce produit suggère, c'est que dans ce cas-là, à cause de l'encombrement stérique, on ne va pas attaquer le soufre, mais on va attaquer l'azote, qui, de son caractère, on va dire nitrène, est quand même électrophile, et donc c'est là qu'on va pouvoir quand même créer cette liaison carbone-azote. Donc, voilà une application de. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine imagination dans les précurseurs de nitrène, hein, comme je vous ai dit, vous voyez que la. Même dans les années 2000, on en a quand même beaucoup qui sont encore sortis. Et c'est probablement pas fini d'ailleurs. Et ouais, je voulais aussi vous parler d'un autre article très récent où on va pouvoir faire des sulfonylamides par photocatalyse en partant d'une sulfinamide et en utilisant maintenant ce réactif ici qui va permettre d'introduire ce noyau NTS sur ce substrat. Donc là, c'est des sulfinamides, on va dire, non protégés ici. Alors, bon, comme il le dit, hein, ces réactions sont metal-free, puisqu'on utilise un organocatalyseur ici qui n'est pas métallique, hein, donc c'est vraiment un organophotocatalyseur, pardon, dans l'acétone, sous irradiation, irradiation quand même assez costaud. Et donc, on arrive à une réaction qui est assez générale. Alors, le mécanisme proposé, je vous le décris, j'ai envie de dire, il suscite quelques interrogations, mais donc il évoque la formation d'un complexe EDA entre le photocatalyseur, donc la fluorescine, et le substrat. Donc on a un donneur et un accepteur, et globalement, le donneur perd un électron pour donner un électron à cet accepteur qui, du coup, va fragmenter. Donc le fragment ici qui va partir, c'est en fait ce carboxylate. Et on va obtenir cet anion. Et donc ce carboxylate, lui, est oxydé, photooxydé. Et ça, ça va être protoné. Et il va en fait lui aussi être oxydé pour redonner un électron en fait au donneur, au photocatalyseur. Parce que donc c'est le photocatalyseur qui est le donneur. Et l'étape importante pour la formation du sulfénamide, c'est globalement le doublé du soufre ici encore présent qui attaquerait donc de façon nucléophile ce radical cation azoté. Et puis ensuite, on a un arrachement d'un hydrogène par le terbutyl pour obtenir ce produit. Donc c'est quand même des étapes assez cinétiquement qui posent question. Est-ce que vraiment le radical terbutyl peut arracher quelle est la durée de vie de chacun des intermédiaires? Bon. Le fait est que la réaction marche, il n'y a pas de question là-dessus. A priori, l'établissement de cette EDA est assez vérifié. Donc, ce qui est intéressant, c'est le scope de cette chimie. C'est que globalement, donc, en partant, il arrive à faire différents types de sulfonimidamide. Et notamment, il s'est amusé à prendre des médicaments qui ont un fragment SO2 NH2, donc des sulfonamides, comme par exemple ces anti-inflammatoires, comme le celecoxib ici, et donc il va le transformer en sulfonimidamide qui lui-même devient un précurseur de nitrène qui pourrait être incorporé, faire réagir sous la forme de nitrène sur d'autres partenaires. Et il a également pris le squelette du valdecoxib ici, et soit en prenant la sulfonamide, ici, ou en prenant la sulfinamide et en faisant maintenant en sorte qu'on puisse avoir le précurseur de nitrène ici pour d'autres réactions. Donc, c'est une post-modification de drogue en utilisant le groupement SO2-NH2 qui reste quand même relativement rare dans la littérature puisque généralement les modifications vont être sur d'autres parties du substrat. Et donc une fois qu'on a ces sulfonimidamides, on peut les faire réagir dans des conditions classiques, j'ai envie de dire, soit avec pour faire l'insertion, pour faire des liaisons SN, soit sur un sulfoxyde, soit sur un sulfure, ou également donc sur ce disulfure ici. Ou on peut faire aussi des aziridines à partir de ces sulfonamides. Et quelque chose qui était intéressant, c'était le questionnement de savoir comment le nitrène ici qui va être engendré peut réagir sur un énine, un cis comme ça. Est-ce que vous allez former une monoaziridine? Est-ce que vous allez former une diaziridine? Et en fait, ce qu'il observe, c'est quelque chose d'assez intéressant, qu'il appelle un peu une réaction de Poisson-Kahn. C'est que globalement, il va faire une 2 plus 2 plus 1 et il va obtenir ses pyrrolidines. Et ça marche relativement bien. Alors évidemment, c'est diastéroselectif puisque vous allez établir une jonction 6 entre les deux cycles à 5. Mais globalement, c'est assez original comme voie d'approche vers ces dérivés. Et donc, on a ce nitrène qui va réagir avec chacune des doubles et non pas qu'avec une seule. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais laisser assez rapidement la parole à mes collègues. Le cours prochain, en fait, je vous parlerai, j'ai encore continué un petit peu sur la nitrène, mais pas que, mais notamment la photochimie, certains aspects de la photochimie des nitrènes, et notamment aussi des nitrènes par extrusion de diazote sur différents types de substrats, et notamment aussi leur utilisation pour faire ce qu'on appelle du chemical editing, et donc par exemple faire de l'excision d'un groupement azoté sur des squelettes. Et donc il y a pas mal de travaux récents qui sont parus. Notamment avec là aussi des nouveaux précurseurs de nitrène comme ces amides bisanomériques là, de Mark Levin. Donc je vous remercie de votre attention et puis donc on peut avoir une séance de questions et puis après on passera aussi au séminaire, on va faire une petite pause avant. Donc merci à vous.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.